France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
C'est une pathologie de la peau plutôt méconnue et qui pourtant est relativement fréquente. Le vitiligo, cette maladie touche environ une personne sur 100. En France, c'est 1 million de personnes. Quelle est sa prise en charge médicale ? Le vitiligo provoque des taches blanches, une dépigmentation progressive qui peut s'étendre à l'ensemble du corps. On a longtemps pensé qu'elle était psychosomatique, alors qu'il s'agit d'une maladie auto-immune causée par un dysfonctionnement du système immunitaire. Dans la peau, ces usines à pigments, que sont les mélanocytes, sont attaquées par les anticorps. Bénignes sur le plan médical, ses conséquences psychologiques sont considérables. L'Association française du vitiligo parle même d'une mutilation de l'image de soi. Quelles sont donc les promesses thérapeutiques à venir ? Vitiligo, une maladie à fleur de peau. Khaled Ezzedine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et professeur de dermatologie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Nous sommes en ligne également avec Thierry Passeron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'équipe INSERM et professeur des universités, praticien hospitalier à l'Université Côte d'Azur et chef du service de dermatologie du CHU de Nice. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios en direct sur France Culture. Et merci à vous qui êtes là à l'écoute en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, quels sont les facteurs de développement du vitiligo ? Comment établir le diagnostic ? Et quelle est la place de la prise en charge psychologique dans le traitement de cette pathologie ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence par donner la parole aux patients. C'est notre archi du jour.
De quand date l'apparition de la première tache ?
La première tache, vous le savez, je ne sais pas quelle date, mais ce que je sais, il y a 36 ans de cela.
Alors, qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque ?
À l'époque, il y a eu pas mal de médecins, mais sans jamais avoir de résultats. J'ai même fait un tour en métropole. Résultat négatif toujours.
Ça fait 42 ans. 42 ans, quand j'ai remarqué ça, j'ai été voir le médecin. J'ai vu plusieurs médecins, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de résultats. Ça.
Et le médecin ne me disait rien. Et toujours est-il que ce n'est pas un malade dangereux. Mais c'est une maladie qui donne beaucoup de complexes.
Donc, ils vous ont quand même, en 36 ans, essayé plusieurs traitements.
Oui, plusieurs traitements. Mais sans avoir de résultats. Au contraire, ça s'est progressé de fur et à mesure.
Et qu'est-ce qu'ils ont essayé comme traitement ?
Ah, je ne m'appelle pas juste. J'ai pas mal fait de traitements. Toujours utile, sans rien.
Ça m'a beaucoup gêné durant toute ma vie. Jusqu'à maintenant, je suis très gêné.
Avant, il y avait un rejet.
Ah oui. Enfin, même s'il y avait un rejet, et moi-même, j'étais très complexé aussi. Alors, ce qui fait que dans la société, je ne me trouvais pas bien.
Un reportage sur RFO en 1988 et ce témoignage de patients en errance thérapeutique. Khaled Ezzedine, alors en 1988, heureusement, depuis, la prise en charge médicale a beaucoup évolué.
Ah oui, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Et on a maintenant un traitement qui a une autorisation de mise sur le marché spécifiquement dans le vitiligo. Et puis surtout, on a un arsenal en cours de développement avec des traitements topiques, c'est-à-dire en crème, des traitements plutôt en systémique, c'est-à-dire plutôt par voie orale ou même en injectable. Beaucoup, beaucoup de choses en développement. Et pour nos patients, c'est quand même très très bien.
Alors cet arsenal thérapeutique qui a été développé depuis, est-ce que on l'entendait, Thierry Passeron, dans ce témoignage, on entendait justement une répercussion psychologique très importante. C'est ça qui a poussé la recherche dans le bon sens ?
Alors oui, et effectivement, moi je suis frappé, et je pense que c'est important de souligner que, comme on le voyait chez ce monsieur, hein, le vitiligo peut avoir un retentissement majeur sur la qualité de vie, l'estime de soi, l'image que l'on peut avoir, et on le voit ne serait-ce que dans la voix de ce monsieur, le retentissement que ça peut avoir. Et effectivement, on sait à la fois les répercussions, mais aussi et surtout les progrès dans la connaissance de la maladie, savoir comment elle fonctionne. Ça nous a permis de développer des traitements qui vont être plus précis et qui vont être bien sûr plus efficaces pour enfin apporter des solutions à nos patients.
On va voir justement tout au long de cette heure quelles sont ces connaissances de la physiopathologie de cette maladie, quels sont les traitements en cours de développement. Mais d'abord, Khaled Ezzedine, quelle est la prévalence de cette maladie? À quel point est-elle fréquente?
Alors, on a réalisé, il y a maintenant une année, une revue systématique de la littérature pour voir la prévalence mondiale de la maladie, et on en est arrivé à une prévalence d'à peu près 0,7% dans le monde, avec cependant probablement une sous-estimation du nombre. On parlait juste de gens diagnostiqués, et quand on sait à quel point l'accès aux dermatologues, en particulier dans certaines régions, est difficile, on peut penser qu'on est plus proche de 1% et probablement de 1,5% que de 0,70%.
0,7% de la population mondiale, Thierry Passeron, c'est une maladie qui peut intervenir, survenir à n'importe quel moment de la vie, n'importe quel âge, quelle que soit la couleur de la peau.
Alors oui, ça touche toutes les personnes, hommes, femmes, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit son origine. Après, c'est une maladie qui généralement débute dans l'enfance et l'adolescence. Hein, classiquement, on disait que à peu près la moitié des vitiligos allaient débuter avant l'âge de 20 ans et 80% avant l'âge de 30 ans. Cependant, on observe et on comprend pas encore tout à fait pourquoi ce phénomène, mais des débuts de vitiligo de plus en plus tardifs, hein, des personnes qui vont commencer un vitiligo à l'âge de 50, 60, 70 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir et pour lequel on n'a pas encore d'explication, mais effectivement, le vitiligo peut débuter en tout cas à tout âge.
Khaled Ezzedine, il y a différentes formes cliniques à cette maladie. Peut prendre deux formes, une forme segmentaire et une forme généralisée. Alors déjà, pour la forme segmentaire, qui est la moins fréquente, quelles sont ses caractéristiques?
Alors, c'est très important de faire la différence entre les deux, parce qu'en termes de pronostic et d'évolution, c'est absolument différent. La forme segmentaire, c'est une forme qui ne va toucher qu'une partie du corps, un segment du corps. Si ma maladie est à droite, elle n'ira pas à gauche. C'est une maladie qui, dans le cas segmentaire, va évoluer très rapidement, à peu près en un an et demi, et va être tout à fait stable après. Donc chez ces patients-là, il faut les rassurer. Une des grandes peurs des patients, c'est vraiment que la maladie se généralise. Il faut leur dire, bien, la maladie, elle n'ira pas au-delà de là où elle est. C'est quand même une intervention très précoce qui est nécessaire, d'où l'intérêt que le patient voit tout de suite un médecin pour qu'on puisse faire un traitement. Plus on intervient tôt dans la pathologie segmentaire, et plus on a de chances de repigmenter. Et après, il y a évidemment la possibilité de faire des greffes dans ce type de vitiligo segmentaire.
Et pour les formes généralisées?
Les formes généralisées, c'est une autre histoire, parce que c'est une maladie qui va évoluer par poussée, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs poussées successives, et entre les poussées, il faut essayer de repigmenter pour regagner au maximum. Le vitiligo est une maladie chronique, comme toutes les maladies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension, et la prise en charge doit se faire au cours de toute la vie, pas uniquement au moment de la poussée. Et au moment de la poussée, il est très important de repigmenter, parce que tout ce qui est gagné ne sera plus ou peut-être moins à traiter pour les prochaines fois. Et on sait aujourd'hui que l'intervention précoce est synonyme de meilleures chances de repigmentation.
Et on verra aussi comment le vitiligo entretient des liens d'une certaine façon avec le diabète. Mais d'abord, avant de parler de dépigmentation, Thierry Passeron, on peut peut-être revenir sur les mécanismes de pigmentation de la peau d'un point de vue biologique.
Alors oui, hein, la pigmentation de la peau, c'est dû à différents pigments. Les principaux pigments, c'est les pigments qu'on appelle les mélanines, qui sont produites par des cellules spécialisées qu'on appelle des mélanocytes. Ces cellules sont dans les couches très superficielles de la peau et elles vont produire de la mélanine en quantité plus ou moins importante, ce qui fait les différences de couleur de peau. Mais ce sont ces cellules qui sont responsables de la majorité de nos pigments. Hein, on peut avoir d'autres pigments tels que les carotènes, etc. Mais les mélanines, c'est vraiment le plus important. Et en fait, dans le vitiligo, en fait, le système immunitaire va s'attaquer aux mélanocytes, les détruire. Donc, on va détruire les cellules qui produisent les pigments. Et du coup, on va avoir un blanchiment de la peau et parfois également un blanchiment des poils, puisque ces mélanocytes, on va les retrouver également dans les follicules pileux, dans les poils. Et ils vont produire la mélanine qui va donner la couleur aux poils. Donc, la destruction de ces mélanocytes va entraîner des plaques blanches et parfois des poils blancs.
Khaled Ezzedine.
Et même au-delà, absolument d'accord avec toi Thierry, mais même au-delà de ça, on a du mélanocyte dans l'œil, on a du mélanocyte dans l'oreille également, et on sait aujourd'hui qu'il y a une association probablement avec des troubles de, oculaires et des troubles auditifs qui sont de manière très claire. Ces mélanocytes-là, ils ont un rôle essentiel et dans les formes probablement généralisées, il peut y avoir une attaque de ces mélanocytes-là avec une baisse, avec des problèmes oculaires et des problèmes auditifs. Donc c'est très important de le savoir.
On voit en effet qu'il y a une plus forte prévalence des pertes sensorielles chez en effet les patients atteints de vitiligo. Alors c'est une pathologie qui repose sur un mécanisme en grande partie auto-immun avec une origine multifactorielle, à la fois génétique et non génétique. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais il existe des prédispositions familiales, Khaled Ezzedine.
Absolument. En fait, il y a une base qu'il faut posséder pour pouvoir développer un vitiligo. C'est la base génétique. Je peux avoir les gènes et ne jamais développer le vitiligo. Et on sait, par exemple, que chez les vrais jumeaux, ils ne vont pas développer forcément tous les deux le vitiligo. La concordance n'est que de 25%, ce qui veut dire qu'il y a des facteurs externes qui vont venir déclencher le vitiligo. Et si ces facteurs externes-là n'interviennent pas, eh bien, le vitiligo peut ne jamais se révéler.
Alors, ces facteurs externes, Thierry Passeron, quels sont-ils ?
Alors, juste pour compléter hein, ce que disait Khaled, je pense que c'est très important parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui pensent que ça peut être une maladie héréditaire. Mmh. Le fait d'avoir un vitiligo ne veut pas dire que son frère, sa sœur, ses enfants vont avoir un vitiligo. Il y a un peu plus de risque de développer un vitiligo, mais ce n'est pas du tout une maladie où on transmet la maladie, hein, comme par exemple l'hémophilie. En fait, on a des petites variations, on en parlait à l'aide, ce sont ces petites variations dans les gènes qui font aussi que, par exemple, on est plus ou moins grand, on a les yeux plus ou moins clairs, etc. Mais on a les mêmes types de variations dans les gènes, et en fait, ça va faire une prédisposition ou pas à développer certaines maladies. Maladie auto-immune, hein, c'est vrai pour le vitiligo, mais c'est vrai pour toutes les maladies auto-immunes. Et comme le disait Khaled, on va avoir un facteur, des facteurs externes qui vont pouvoir déclencher la maladie, mais également des poussées. Et en fait, ces facteurs, c'est ce qu'on appelle l'exposome, hein, qui est quelque chose qui est de plus en plus connu aujourd'hui. C'est l'ensemble des facteurs auxquels nous sommes soumis de notre conception jusqu'à notre mort. C'est des facteurs internes, c'est l'alimentation, c'est les hormones, mais également des facteurs externes. Ça peut être un stress effectivement psychologique, un stress chirurgical, une perturbation hormonale, puberté, grossesse, ménopause, mais ça peut être également une infection virale, hein, la Covid peut être une facteur déclenchant de poussée. Certains médicaments peuvent également être source de poussée de vitiligo. Et donc en fait, ce sont l'ensemble de ces facteurs qui peuvent être des éléments déclenchants, et c'est pas comme on le croyait pendant longtemps, une maladie psychosomatique. Il peut y avoir des facteurs de stress psychologique peuvent être à la source de déclenchement de poussée, mais malheureusement, j'allais dire, si on prend en charge le stress, ça n'a jamais permis de repimenter un vitiligo. Et comme pour les autres maladies auto-immunes, ce sont l'ensemble de ces facteurs qui vont être des éléments déclenchants, mais ce sont des vraies maladies auto-immunes et non pas des maladies psychosomatiques comme on peut encore malheureusement encore l'entendre parfois.
Thierry Passeron, comment ça se passe un peu plus précisément hein, par rapport à ces facteurs qui déclenchent le processus auto-immun, si par exemple le cas d'une infection par un virus ou un autre pathogène par exemple?
Alors, de façon très très schématique, hein, quand vous êtes quand nous sommes en contact avec un virus, on va pas reconnaître l'ensemble du virus, on va reconnaître certaines parties du virus, certains antigènes. Et en fait, vous, parce que vous avez un patrimoine génétique et un système, ce qu'on appelle HLA différent peut-être du mien, vous allez reconnaître une petite partie. Moi, je vais reconnaître une autre. Et en fait, ces petites variations vont faire que, par exemple, moi, je vais reconnaître un antigène particulier. Cet antigène particulier, en fait, est très proche d'un autre antigène que l'on a sur le mélanocyte. Et la prochaine fois que mon système immunitaire va se balader, il va dire, tiens, mais ça ressemble au virus que j'avais vu la dernière fois. Et en fait, il va s'attaquer à nos mélanocytes. Et donc, c'est un peu le même mécanisme dans toutes les maladies auto-immunes. On va, en fonction de notre patrimoine génétique, lorsqu'on est soumis à une agression interne ou externe, on va développer une réponse immunitaire contre ce facteur-là. Et puis, parfois, le système peut se tromper et reconnaître ensuite une cellule qui nous appartient, et en l'occurrence dans le vitiligo, le mélanocyte, et conduire ensuite à ces plaques blanches.
Et c'est la maladie qui a le plus de liens génétiques avec d'autres maladies auto-immunes. Alors comment a-t-on de mieux en mieux compris sa physiopathologie? Restez à l'écoute, on y arrive.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Khaled Ezzedine et Thierry Passeron. On parle d'une maladie bénigne à l'impact psychologique souvent considérable, le vitiligo, une pathologie auto-immune d'origine multifactorielle. On a déjà associé 50 gènes de susceptibilité, mais qui est aussi dépendant de différents facteurs. On l'a dit, on a vu des effets secondaires qui sont liés à cette pathologie, Khaled Ezzedine. On voit que 15 à 20% des personnes atteintes de vitiligo généralisé souffrent aussi parallèlement d'autres maladies auto-immunes.
Absolument. Et la plus fréquente de toutes ces maladies auto-immunes, ce sont les thyroïdites auto-immunes. Et c'est pour ça que quand on voit un patient pour la première fois avec un vitiligo, non seulement on dose la TSH, qui est l'hormone sécrétée par la thyroïde, mais on dose aussi des anticorps spécifiques de la thyroïde qui peuvent être prédictifs de la survenue de ce qu'on appelle une thyroïdite auto-immune. Et donc oui, à peu près 20 à 25% des patients avec un vitiligo vont développer une autre maladie auto-immune. Le plus fréquemment, cette maladie, c'est les maladies de la thyroïde.
Alors, contrairement à l'idée longtemps admise, Thierry Passeron, le vitiligo n'augmente pas le risque de cancer de la peau, au contraire.
Alors oui, et ça c'est quelque chose qui est très très important parce que trop souvent encore, les personnes qui ont un vitiligo, et on le voit à la consultation, se font dire « Ah ben vous avez un vitiligo, on peut rien faire, il faut surtout vous protéger du soleil ». Les deux sont faux. On sait aujourd'hui que le vitiligo, les personnes qui souffrent de vitiligo vont avoir une diminution significative du risque de cancer cutané, et notamment de mélanome, qui est le cancer du mélanocyte, hein, du grain de beauté, qui est un cancer qui est très sévère. Et c'est assez logique, comme j'explique toujours à mes patients, leur système de défense, quand ils voient un gentil mélanocyte, ben il va s'attaquer à ce gentil mélanocyte. Et donc là, il a l'habitude, s'il voit un méchant mélanocyte, il va s'en occuper, on va dire, encore mieux. Le risque est trois fois moindre par rapport à la population générale. Donc, ils ne sont pas totalement immunisés. Mais contrairement aux idées reçues, une personne qui a un vitiligo a moins de risque de développer un cancer cutané, et notamment un mélanome. Et ça, c'est très important, puisque lorsqu'on discutera des traitements, on verra que les UV, hein, d'une manière générale, les UVB que l'on peut faire chez le dermatologue ou les UV du soleil, vont être bénéfiques et souvent indispensables pour obtenir une repigmentation optimale.
D'ailleurs, à propos d'exposition au soleil, Khaled Ezzedine, est-ce que le soleil peut déclencher cette maladie dans les facteurs externes dont on parlait tout à l'heure ?
Il peut, en fait, déclencher la maladie, mais c'est très rare. En réalité, quand les patients viennent au premier rayon de soleil en disant c'est le soleil qui a déclenché, le plus souvent, c'est juste le soleil qui a révélé les taches, parce que ils voient la différence de taches. Surtout, plus on a la peau claire, et moins on voit le vitiligo. Et sur les zones cachées, à la première exposition, le contraste va augmenter. Et ce contraste augmentant, on va les voir et on va avoir l'impression qu'on a déclenché la maladie.
Alors comment, par rapport justement au déclenchement de cette maladie, Thierry Passeron, qu'a-t-on compris justement du rôle de l'immunité dite adaptative, l'immunité cellulaire dans cette maladie, et le rôle également de l'immunité innée?
Alors, il faut comprendre que l'immunité innée, c'est une immunité assez peu spécifique qui va répondre à justement à ces facteurs de l'exposome, ces facteurs de stress, en fait. Donc, lorsque la cellule est stressée sur le plan médical, elle va produire différentes protéines qui vont activer ce qu'on appelle les PAMS et les DAMS, mais peu importe, qui sont en fait des facteurs qui vont activer l'immunité innée. Et cette immunité innée qui va réagir aux facteurs externes va stimuler, attirer d'autres types d'immunité, cette fois-ci beaucoup plus spécifique, qui est l'immunité adaptative. Et ça, dedans, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les lymphocytes, et ces lymphocytes, eux, vont être spécifiques d'un antigène particulier, d'une cellule en particulier. Et donc, en fait, l'immunité innée fait le lien entre les facteurs externes, ce qu'on a appelé tout à l'heure l'exposome, et l'immunité adaptative qui, elle, est spécifique et qui va ensuite rester et s'occuper des mélanocytes. Et on sait aujourd'hui que, en fait, on va avoir une mémoire de cette immunité adaptative qui est très importante lorsqu'on est en contact, par exemple, avec un virus. À la première fois, en général, on fait une grosse réaction. Et puis la deuxième fois, en fait, on est entraîné. Nos mélanocytes, nos lymphocytes sont entraînés et vont pouvoir se défendre de façon beaucoup plus efficace contre ce virus. Malheureusement, dans les maladies auto-immunes, dont le vitiligo, eh bien, on va également développer des lymphocytes T mémoire, ce qui fait qu'une fois qu'on a eu la maladie, les premières lésions, on va avoir de plus en plus de lymphocytes T mémoire et ça va s'accumuler et ça va être de plus en plus difficile à traiter. Et je rejoins tout à fait ce que disait Raleigh tout à l'heure, c'est-à-dire que on le sait depuis longtemps dans les vitiligos segmentaires, plus on traite tôt, mieux c'est. Et là, on a une étude avec nos collègues de Bordeaux où on a pu montrer que si on traite de façon très très précoce, c'est-à-dire dans les premiers mois d'évolution en vitiligo, on va avoir des réponses qui sont bien supérieures à ce qu'on a habitude. Donc il y a vraiment une fenêtre d'opportunité lorsqu'on commence à développer un vitiligo, probablement justement parce qu'on laisse pas le temps à ces cellules mémoire de se former et de s'accumuler.
Allez, Desedine.
Absolument, Thierry a absolument raison. Et cette mémoire qui se forme, elle est responsable aussi de ce qu'on appelle le relapse. C'est-à-dire que sur une zone qui a été traitée aujourd'hui, eh bien, au bout de 6 mois, si on arrête le traitement, la lésion va revenir dans 40% des cas. Ce qui fait qu'on a besoin d'un traitement d'entretien. Et avec Thierry, nous avions réalisé une étude avec un médicament où on appliquait le médicament 2 fois par semaine et où on avait réussi à abaisser ce taux de 40% à 10%. Donc oui, il y a une mémoire qui se fixe au niveau des zones dépigmentées et plus on laisse faire, plus il y aura de lymphocytes T mémoire et plus il va être difficile de récupérer la pigmentation, mais surtout de la garder. Et cette mémoire-là, elle va faire que les lésions vont revenir.
Oui, on verra dans quelques instants comment on joue sur ce risque de récidive d'un point de vue thérapeutique. Raleigh Desedine, on a aussi vu en recherche fondamentale, on a débusqué voilà, qu'il existe des anomalies intrinsèques des cellules de la peau également.
Il existe des anomalies intrinsèques des cellules de la peau et en particulier de l'attache des mélanocytes au niveau de ce qu'on appelle la membrane basale. Il y a des protéines qu'on appelle les cadérines qui sont un peu plus fragiles chez les patients qui ont du vitiligo, et ce qui fait que quand on va frotter de manière répétée la peau, on appelle ça le phénomène de Koebner, puisque c'est lui qui a décrit ça dans la majorité des maladies auto-immunes la première fois, et bien les mélanocytes vont se détacher, on va les perdre et on va avoir la couleur de la peau qui s'en va. Et oui, effectivement.
Autre compréhension qui a progressé ces dernières années, Thierry Passeron, on évoquait les différentes formes de vitiligo, vitiligo segmentaire ou vitiligo généralisé. Là aussi, on commence à comprendre l'origine de ces deux formes.
Alors oui, en fait, dans le vitiligo segmentaire, il y a probablement des anomalies qui se font au niveau des mélanocytes, mais également des autres cellules de la peau, et ces anomalies surviennent une fois que l'enfant est déjà en train de se former en tant qu'embryon, et donc ça va toucher qu'une seule partie du corps, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Alette, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça va toucher que par exemple la partie gauche du visage, et ça ira pas sur les jambes, ça ira pas sur le côté droit. Donc en fait, il y a ces petites anomalies de la peau qui vont se faire, qu'on appelle des mosaïques en fait, et qui vont rendre cet endroit-là beaucoup plus susceptible de développer un vitiligo. Et comme le disait Daralette tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est que, et de dire aussi aux personnes qui souffrent de formes segmentaires, hein, parce que ces formes segmentaires sont encore plus fréquentes chez les enfants, c'est que dans 90% des cas, la lésion va rester limitée à ce segment et n'ira pas ailleurs. Donc il y a quand même 10% de cas où il peut y avoir des lésions qui vont être classiques de vitiligo. On parle alors d'un vitiligo mixte avec une forme segmentaire et non segmentaire, mais dans 90% des cas, les formes segmentaires restent segmentaires, et ça c'est quand même important à expliquer, parce que on peut quand même rassurer les personnes en disant ben oui, votre vitiligo est là, mais c'est un vitiligo qui devrait rester dans la majorité des cas localisé sur ce segment de peau.
Rassurer les patients, justement, quel est l'impact sur la qualité de vie des personnes qui souffrent de cette pathologie? On poursuit avec notre deuxième archive.
Ces petites taches blanches ne sont ni contagieuses ni douloureuses. Elles sont dues à une dépigmentation de la peau, quelle que soit sa couleur. On parle de vitiligo. Le torse, les mains, les pieds, le visage, aucune zone n'est épargnée. La souffrance vient surtout du regard des autres.
Ce qui me dérange, oui, c'est quand les gens ils vous évitent. Les gens ne veulent pas s'asseoir à côté de vous, et ça, c'est dérangeant. On souffre intérieurement, on se dit, vous êtes devenu infréquentable, peut-être.
Pour aider la peau à repigmenter, les médecins proposent parfois des séances d'UV, un traitement efficace lorsqu'il reste quelques cellules responsables de la pigmentation. Autre technique, la greffe de peau, uniquement possible, comme pour cette jeune fille, sur une zone très localisée.
D'ici quelques mois, ça prendra exactement la teinte de la peau normale. Nous sommes capables de faire une réparation du vitiligo, mais personne n'est capable de guérir le vitiligo.
Parmi les thérapies, d'autres solutions viennent des associations, comme cet atelier de maquillage.
C'est restaurer une image de soi qui soit acceptable, que l'on puisse, qui puisse vous rendre, j'allais dire, anonyme, et non pas quelqu'un de l'objet de curiosité.
Des ateliers bien utiles en cas de recherche d'emploi ou de changement d'école. Les hommes et les enfants y sont donc les bienvenus, car le vitiligo apparaît souvent avant l'âge de 30 ans.
Voilà, le trésor de TF1 en 2007, restaurer une image de soi. Raled Ezzedine, ça me fait penser donc à ce constat de l'Association française du vitiligo, qui parle donc d'une mutilation de l'image de soi, et qui ne serait donc pas prise en compte par le discours des médecins et de l'entourage. Peut-être qu'on peut, on a des outils qui nous permettent aussi de comprendre quel est l'impact que ça a sur la vie des patients.
Absolument. Moi, je réfère souvent à cette histoire qui m'avait été rapportée par un membre de l'association anglaise du vitiligo. Ils avaient reçu un patient qui était venu les voir, voir l'association anglaise, en leur demandant, un Pakistanais, alors l'origine culturelle est extrêmement importante quand on a un vitiligo, l'impact ne va pas être le même qu'on ait la peau foncée, qu'on ait la peau claire. Et ce patient était venu voir l'association en lui demandant comment il pouvait se faire amputer le bras. Il disait, ben, si je ne me fais pas amputer, je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais pas avoir une vie normale. Donc, moi, j'ai du mal à voir un patient avec du vitiligo et à lui dire, eh bien, ce n'est rien, c'est juste une dépigmentation, c'est pas grave. Eh bien, c'est grave. Ça peut être très grave. En tout cas, ça peut être perçu de manière très, très grave par le patient. Et il est extrêmement important, et je trouve qu'on ne le fait peut-être pas assez, il faut faire son mea culpa, on n'écoute pas assez les patients, et je crois que l'avis des patients aujourd'hui est important, et l'AHAS s'en rend compte d'ailleurs, puisque maintenant on a des formations universitaires pour les patients experts.
En effet, l'impact professionnel que vous décrivez, c'est aussi quelque chose qui ressort du Global Vitiligo Atlas qui vient d'être fait par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, un atlas pour établir justement la prévalence de la maladie à travers le monde, et surtout ses conséquences psychologiques et les impacts professionnels, Thierry Passeron.
Oui, c'est très important et je rejoins tout à fait ce que disait Raled, et Raled a énormément contribué à faire des études, à montrer quel était l'impact du vitiligo, qui est souvent aussi important, si ce n'est plus, que beaucoup d'autres dermatoses ou même des maladies chroniques. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et l'autre point, encore une fois, on en a parlé depuis le départ, mais le vitiligo, c'est pas un problème cosmétique, c'est une vraie maladie auto-immune, et d'ailleurs les traitements que l'on a sont souvent des immunomodulateurs, donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Mais effectivement, selon les pays, selon les personnes, on peut avoir un retentissement. Il y a encore malheureusement des pays, c'était une étude qui avait été publiée au Brésil, où il montrait que plus de la moitié des emplois dans le fonctionnariat étaient interdits à des personnes qui ont un vitiligo, ce qui est quand même assez incroyable à notre période. Et on ne peut pas rentrer dans l'armée indienne aujourd'hui si vous avez un vitiligo, alors que ce n'est pas du tout contagieux et qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on voit bien que l'impact en fonction de la culture est très important, mais sans aller chercher très loin. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont dans le relationnel, ou même des infirmiers, des infirmières, qui me disent que certains patients leur demandent de mettre des gants parce qu'ils ne veulent pas être touchés avec le vitiligo. On en est encore là aujourd'hui. Donc je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, à la fois pour éduquer toute la population, leur expliquer que c'est pas du tout contagieux, mais également éduquer, il faut le dire, tous les médecins pour leur expliquer que effectivement le vitiligo est une vraie maladie et qu'il faut la prendre en charge, il faut écouter les patients. Et je rejoins tout à fait ce que dit Raled, il faut absolument entendre premièrement leur souffrance, mais aussi entendre leur volonté par rapport au traitement, parce qu'on va avoir de plus en plus de traitements et on va pouvoir proposer un traitement en fonction de la demande du patient, parce que certains nous disent, moi j'aimerais bien repimenter surtout le visage parce que c'est ce qui me gêne le plus, d'autres qui veulent repimenter l'ensemble des zones, d'autres plutôt bloquer l'extension de la maladie. Et donc cette décision médicale partagée est quelque chose qui est très très importante aujourd'hui, et peut-être encore plus dans le vitiligo.
L'écoute des patients, c'est aussi quelque chose qui ressort dans une autre étude parue en 2023 dans la revue JAMA Dermatologie, qui a été réalisée sur plus de 3500 malades et qui montre que plus de la moitié des interrogés ont reconnu avoir été diagnostiqués victimes de troubles de santé mentale, l'anxiété en première place, suivie par la dépression. Alors quels sont les progrès thérapeutiques en cours? Restez à l'écoute, on y arrive. Jay Skin, en direct sur France Culture, car nous parlons d'une dermatose particulièrement stigmatisante, le vitiligo. On en parle avec nos deux invités du jour, Rala Dezedine, médecin et professeur de dermatologie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, Thierry Passeron, chef d'équipe INSERM à l'Université Côte d'Azur, praticien hospitalier à l'Université Côte d'Azur et chef du service de dermatologie du CHU de Nice. Rala Dezedine, comment ça se passe pour établir le diagnostic? Quand un patient vient vous consulter, quels sont les premiers signes auxquels il faut être attentif? Comment poser le diagnostic?
De manière assez simple, le vitiligo est une maladie dont le diagnostic n'est pas très difficile à poser. On n'a pas besoin, a priori, de faire de biopsie ou de choses comme ça. Alors, le seul problème, c'est que très souvent, quand ils viennent, cela fait plus de 2 ans qu'ils errent, parce que les lésions sont au départ toutes petites, localisées à certains endroits, et très souvent prises pour une autre infection due à un champignon qu'on appelle le pityriasis versicolor. Et très souvent, ils viennent, malheureusement, après avoir été longtemps catalogués, en moyenne 2 ans, entre le délai, entre le moment où ils voient les premières lésions, le moment où ils sont diagnostiqués, où ils arrivent dans un centre expert. Et notre rôle à nous, évidemment, c'est d'augmenter l'information sur la maladie pour permettre un diagnostic plus précoce.
Ce diagnostic plus précoce, Thierry Passeron, comment se passe-t-il en effet pour le distinguer du psoriasis, de l'eczéma?
Alors, ça c'est relativement simple dans le sens où ça se manifeste par des taches blanches, alors que le psoriasis et l'eczéma, ce sont en général des lésions rouges. C'est relativement facile à diagnostiquer. Comme le disait Raled, le problème, c'est généralement par rapport à d'autres dermatoses qui donnent des taches blanches et essentiellement par rapport à cette infection très fréquente qui est le pityriasis versicolor. Mais très honnêtement, pour un dermatologue qui a l'habitude de voir des patients qui ont un vitiligo, le diagnostic est évident. Cependant, parfois, c'est important de regarder avec une lumière particulière qu'on appelle la lumière de Wood, qui est une lumière bleue qui permet de voir bien mieux les lésions dépigmentées. Et en fait, le vitiligo, vu qu'il y a une perte des mélanocytes, la peau apparaît complètement blanche, blanc ivoire. Alors que lorsqu'on a des taches blanches liées à une inflammation des champignons ou même un eczéma, mais qui aurait régressé, les fameuses dartres blanches que l'on peut avoir, qui sont fréquentes chez les adolescents. En fait, toutes ces autres dermatoses inflammatoires, il y en a beaucoup, se manifestent toujours par une peau qui est plus blanche, mais qui n'est jamais complètement décolorée. Seul le vitiligo, en fait, dans la majorité des cas, se manifeste par une plaque complètement blanche. Et c'est pour ça que si les personnes ont une peau plus claire, il est indispensable de regarder avec cette lumière de Wood. Et là, le diagnostic est évident, puisqu'encore une fois, ça ressort totalement blanc. Et si c'est totalement blanc, dans la très, très grande majorité des cas, sauf qu'il y a des diagnostics très, très rares, ce sont du vitiligo.
Raled Ezzedine, on ne guérit pas du vitiligo, mais on sait désormais bloquer les pousser et repigmenter une part importante des lésions. Quels sont les traitements disponibles?
Alors aujourd'hui, on a plusieurs types de traitements. Alors il faut comprendre que dans le vitiligo, il y a 2 choses qui se passent. Il y a l'inflammation et l'immunité. Et en même temps, il faut repigmenter, c'est-à-dire qu'il faut stimuler les mélanocytes, qu'ils aillent produire ces petites usines pour qu'elles aillent produire ce pigment dont on a besoin. Donc on a des traitements maintenant par voie orale pour bloquer les poussées qui sont les corticoïdes et d'autres traitements sont en cours de développement pour ça. Et on a des traitements qui sont des crèmes, qui sont des immunomodulateurs. Les corticoïdes peuvent en faire partie dans certaines zones. Il y a aussi des crèmes plus spécifiques aujourd'hui qui sont plus ciblées de la voie physiopathologique comme le ruxolitinib qu'on peut également utiliser. Alors, on peut repigmenter et on aura toujours besoin d'UV, évidemment, de lumière pour repigmenter.
Oui, la repigmentation, c'est, vous l'avez dit, un phénomène long. Thierry Passeron, souvent le visage, les mains, les pieds sont généralement les premières zones atteintes. C'est aussi des zones qui sont très difficiles à repigmenter. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Alors, tout dépend. Le visage est, au contraire, la zone qui répond le mieux. Oui, oui. Aujourd'hui, on arrive à repigmenter complètement ou quasi complètement la très grande majorité, 80-90% des personnes sur le visage, on va pouvoir obtenir une repigmentation. À l'opposé, par contre, les mains, les pieds, les poignets restent des zones qui restent extrêmement compliquées à repigmenter. Pendant longtemps, on a pu penser que c'était les frottements, mais c'est pas le cas. On a pu penser également que c'était la densité des poils. Probablement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense personnellement qu'il y a des facteurs à l'intérieur de la sur ces zones-là qui sont différents et qui empêchent, ou en tout cas qui limitent la différenciation des bébés mélanocytes et leur prolifération, ce qui va permettre de recoloniser la peau et de refaire du pigment. Donc ces zones-là, pour des raisons qui sont encore mal comprises, mais qu'on est en train justement d'étudier dans le service, sont des zones qui restent très très difficiles à repigmenter, mais inversement, le visage, c'est aujourd'hui une zone où, dans la très grande majorité des cas, on va repigmenter, et le reste du corps, on va dire, on va se situer dans la situation intermédiaire.
En effet, le visage, on peut réparer toute la peau quasiment au complet facilement, mais ça fait en effet partie des premiers signes, des premières taches qui apparaissent. Mais alors, là, on évoquait les progrès de la recherche, il y a aussi d'autres traitements qui sont en développement, les plus avancés, ce sont les inhibiteurs de JAK, ce premier traitement de nouvelle génération qui cible ces voies de signalisation cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'un médicament anti-JAK et comment fonctionne-t-il, Khaled Ezzedine ?
Alors, il y a plusieurs types de JAK. Les JAK, en fait, c'est des complexes protéiques qui vont venir la voie de l'inflammation dans le vitiligo, mais dans la plupart des maladies auto-immunes, c'est une voie qu'on appelle la voie de l'interféron, qui est médiée par quelque chose qui s'appelle les JAK, ces complexes-là. Ces JAK vont venir bloquer l'inflammation en allant se mettre spécifiquement aux endroits qui sont stimulés par les anticorps et donc vont empêcher la réaction inflammatoire.
Thierry Passeron, sur ces traitements de nouvelle génération.
Alors, premièrement, comme le disait Khaled, ces inhibiteurs de JAK par voie topique ont montré une efficacité. C'est le ruxolitinib, c'est le premier traitement remboursé depuis toujours et qui a l'AMM en France dans le cadre du vitiligo localisé avec une atteinte du visage. Donc là, on a depuis 2024 un premier traitement démontré dans une très belle étude pour être efficace, une très bonne tolérance, un traitement qu'on peut faire dès l'âge de 12 ans. Et actuellement, on est en train de lancer les études dès l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est vraiment le premier progrès. Le problème, c'est que effectivement, il faut l'appliquer deux fois par jour, que, comme vous l'avez dit, le vitiligo pour repigmenter, ça c'est quelque chose qui est très important à souligner, ça prend de nombreux mois. Il faut entre 6 et 24 mois pour obtenir une repigmentation satisfaisante dans le vitiligo, donc il faut malheureusement pas croire qu'en mettant la crème pendant quelques semaines, on va repigmenter, et ça c'est quelque chose qui est très très important à comprendre. Et pour les personnes qui ont une atteinte diffuse, vous imaginez bien que vous pouvez pas mettre de la crème sur plus de 10-20% de la surface corporelle, ou pour les personnes qui ont des atteintes très actives où le système immunitaire est en train de détruire les mélanocytes, il faut des traitements par voie générale. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Il y en a plusieurs qui sont en essais thérapeutiques. Certains sont en phase 3, c'est-à-dire les derniers essais avant commercialisation. Et la semaine dernière, on a eu les premiers résultats avec un de ces traitements qui s'appelle l'upadacitinib, qui a montré une supériorité versus le placebo et donc a montré une efficacité dans le vitiligo. Et donc, j'ai bon espoir et j'espère de tout cœur que ce traitement sera disponible dans les années à venir, je pense peut-être d'ici 2027, pour nos patients, notamment ceux qui ont une atteinte diffuse ou active. Donc c'est le premier et c'est à mon avis le premier d'une longue série.
Et on a aussi, en cas d'échec, la possibilité de faire une greffe mélanocytaire. Alors là encore, Khaled Ezzedine, quel est le procédé ?
Alors, les greffes, on ne les fait pas à tout le monde. Les greffes, on va les faire quand la maladie est stable. Dites-vous que si on ne bloque pas le processus de propagation de la maladie, si on fait une greffe, elle va dépigmenter. Or, c'est un processus qui est long, qui est coûteux, qui n'est pas remboursé. Donc, on ne les fait que dans la majorité du temps dans les vitiligos segmentaires. Le principe, c'est d'aller récupérer les mélanocytes là où ils sont, c'est-à-dire au niveau d'une autre zone de la peau. On sépare ce qu'on appelle le derme de l'épiderme. On gratte tout simplement pour récupérer ces cellules qu'on va mélanger avec de l'acide hyaluronique. On va très légèrement abraser la peau, comme si on prenait du papier vert et qu'on enlevait cette couche superficielle, et on va poser dessus ces mélanocytes que nous avons récupérés dans un endroit où il n'y a pas de vitiligo. Et on va laisser la nature faire, c'est-à-dire on va mettre un pansement pendant une semaine qu'il ne faudra pas toucher, on va éviter d'enlever les croûtes de manière brutale et juste mettre un pansement gras pour qu'elles partent, et au fil du temps, dans les semaines qui suivent, ces mélanocytes, ces bébés mélanocytes qu'on a plantés vont se développer et vont aller repeupler toute cette peau-là.
Alors en matière de thérapeutique, comment la recherche continue-t-elle d'avancer ? On poursuit avec le reportage du jour. On vient de le voir, il existe déjà des traitements pour le vitiligo. Ils permettent notamment à certains patients de repigmenter certaines zones de leur peau, mais des médicaments potentiellement plus efficaces, moins contraignants et avec moins d'effets secondaires sont actuellement à l'étude. Pour notre reportage du jour, nous sommes allés voir comment sont menées ces études à l'hôpital Henri Mondor de l'APHP à Créteil. Et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha. Effectivement, pour qu'un traitement puisse se retrouver en pharmacie, il faut d'abord qu'il ait été testé lors d'un essai clinique rigoureux, afin de s'assurer notamment que l'équilibre entre les risques d'effets secondaires et les bénéfices tirés par le traitement sont favorables aux patients. Pour mieux soigner le vitiligo, plusieurs essais cliniques sont en cours dans votre service de dermatologie, Khaled Edzedine. Il y en a notamment un à venir qui cible des cellules responsables de la mémoire de la peau en inhibant une protéine dénommée IL-15. Ce sont des études qui se déroulent en trois phases que vous m'avez détaillées et ensemble nous avons aussi discuté de certaines failles qu'il y a dans la manière dont sont organisés ces essais cliniques, des failles qui entraînent parfois des situations difficiles à vivre pour certains patients et qui soulèvent donc des questions éthiques.
En général, pour tous les médicaments, à partir du moment où on découvre une protéine ou quelque chose qui pourrait faire office de médicament, qui pourrait bloquer une voie inflammatoire, la première chose à faire, c'est de regarder sa toxicité immédiate. Et dans les phases précoces, qui sont les phases 1, on regarde la toxicité du médicament. Si on passe cette phase-là et que le médicament, finalement, il est pas toxique à certaines doses, on passe à ce qu'on appelle la phase 2. On teste différentes doses contre un placebo. Et on va regarder la plus petite dose qui donne le maximum d'effet. Et c'est comme ça qu'on va décider de ce qui va se passer dans la phase 3. Donc, nous ici, pour les anti-IL-15, on est uniquement en phase 2. Donc, on va tester différentes doses du médicament avant de passer à la phase 3. Parce qu'il y a eu les essais de phase 1 qui ont montré que ce n'était pas toxique.
Vous avez parlé de placebo, j'ai du mal à croire qu'on donne des placebos à des gens qui veulent guérir, mais peut-être, je suis curieux de savoir comment ça se passe.
Alors, il n'y a pas beaucoup de traitements qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont sur le marché, ce qui fait que c'est plus facile d'enrôler. Mais en général, dans les essais, quand on veut évaluer le critère de succès d'un traitement, on place la barre à 6 mois par exemple. Je dis mon critère de succès ou d'échec d'ailleurs, est à 6 mois. Eh bien, pendant les 6 premiers mois, je peux avoir le placebo ou je peux avoir le bon traitement. Je ne sais pas. Mais au bout de 6 mois, j'ai mon critère d'évaluation principale qui est fait. Tout le monde, l'essai ne s'arrête pas. Tout le monde va recevoir le traitement, s'il le souhaite.
D'accord. Et ce, pour une période donnée ?
Et ce, pour une période donnée. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, pourrait poser problème. Autant dans les phases 3... On sait qu'on n'est pas très loin du médicament et en général, l'industrie essaie d'avoir des phases 3 qui continuent pour permettre de ne pas avoir de rupture dans l'approvisionnement du patient en médicaments. Parce que vous imaginez quelqu'un qui a un vitiligo qui repigmente complètement parce qu'on lui a donné le traitement et qui tout d'un coup, on lui dit vous ne pouvez plus avoir le traitement parce que l'essai est fini.
Finalement, le problème, ce n'est pas tant l'aspect placebo, puisque après, ces personnes-là ont quand même accès au traitement. C'est plus les personnes qui ont accès au traitement. Donc finalement, toutes, puisque même celles qui ont accès au placebo finissent par y avoir accès. Celles-là, ensuite, quand l'essai se termine, leur traitement se termine et potentiellement leur vitiligo peut revenir.
Absolument. Et c'est une des grandes questions éthiques, je pense, qu'il faudra se poser à l'avenir. C'est que dans les phases 2 en particulier, on peut avoir, à mon sens, des situations qui peuvent être pas très aisées avec les patients. Et éthiquement, on a le droit de se poser la question, est-ce que j'ai le droit, quelqu'un qui a complètement repigmenté et qui s'est complètement investi dans quelque chose, de lui dire bah, « je ne peux plus vous donner le traitement parce que l'essai est fini », moi, personnellement, ça me pose une question éthique aujourd'hui.
Oui, parce que c'est des situations que vous avez déjà rencontrées, en tout cas.
Bien sûr, c'est des situations qu'on a rencontrées et qu'on va continuer de rencontrer tant que le problème n'est pas résolu.
Parmi ces situations, il y a l'histoire de Frédéric De Chandal. C'est un patient du docteur Edzedine qui a accepté de me raconter son expérience au téléphone. Il est d'origine indienne, avec donc une peau mate qui rend le vitiligo plus visible. La dépigmentation s'est d'abord manifestée autour de ses yeux, alors qu'il avait une douzaine d'années, puis elle s'est soudainement développée partout sur le corps. Aujourd'hui, il a complètement embrassé sa maladie, il a accepté qu'elle faisait partie de lui, mais il sait que ce n'est pas le cas de tout le monde, et il voulait participer à la recherche de traitements, notamment pour ses enfants, car elles sont plus à risque de développer un jour un vitiligo. C'est dans ce contexte qu'il rencontre le docteur Edzedine et qu'il participe à un essai clinique de phase 2 pour un médicament en comprimé. Malgré des effets secondaires, il repigmente peu à peu, mais cette dynamique s'inverse brusquement à la fin de l'essai clinique.
On l'a pris en charge aujourd'hui autrement, avec un traitement topique qui existe dans le vitiligo, et on arrive pour l'instant à le maintenir assez bien, sauf qu'il y a de grandes contraintes, parce que l'essai dans lequel il était, c'était des comprimés. Aujourd'hui, le traitement qu'il a, c'est un traitement à base de crème qui impose de s'appliquer une crème 2 fois par jour.
Donc plus contraignant au quotidien.
Plus contraignant au quotidien. Mais aujourd'hui, la majorité des médecins engagés dans les essais cliniques militent pour des phases 2 plus longues où on continue de donner accès au traitement. Ça coûte cher.
C'est-à-dire quelque part des phases 2 qui seraient glissantes jusqu'à une phase 3 ?
C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas.
Mais j'imagine que derrière, c'est des discussions avec les laboratoires parce que eux, c'est un coût pour eux.
Absolument. Le jour où on aura plusieurs traitements efficaces, quelqu'un qui sort d'un essai clinique, si je veux le maintenir avec sa repigmentation, je pourrais lui donner un autre traitement. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore, malheureusement. Je pense qu'il faut toujours avoir le souci du patient et toujours impliquer le patient dans la recherche. Et aujourd'hui, il existe des formations universitaires pour ce qu'on appelle des patients experts. Et il faut intégrer le patient dans la recherche clinique. C'est lui qui est le principal sujet. Finalement, tout ce qu'on fait, au fond, c'est pour le patient. Et il y avait cette idée de la médecine au siècle dernier où le médecin et l'industrie étaient les rois et décidaient pour tout le monde. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on shift dans le paradigme et qu'on passe à « on construit avec le patient ».
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo. C'est à podcaster sur l'application Radio France. Thierry Passeron, pour compléter l'écoute de ce reportage, comment, de votre point de vue, vous regardez par rapport à la recherche de nouveaux traitements du vitiligo, les futurs enjeux de la recherche actuelle?
Alors, oui, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alette dans ce reportage. Il y a beaucoup de points à rediscuter. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que aujourd'hui, participer à un essai clinique, c'est avoir la possibilité d'avoir des traitements plusieurs années en avance. Là, on parlait des traitements par voie générale. Ça fait plus de 5 ans que les premières études de phase 2 ont été faites. Maintenant, on a les phases 3. Nous, on a dans le service des patients qui continuent à avoir ce traitement, alors que, comme on le disait tout à l'heure, il va être commercialisé, si tout se passe bien, pas avant 2027, et probablement fin 2027. Donc, ça permet quand même aux personnes d'avoir des traitements innovant dans des conditions de sécurité, puisque tout est extrêmement surveillé, bien avant tout. Mais c'est vrai que, notamment pour les phases 2, eh bien, des fois, on arrête le traitement et c'est extrêmement dur pour les patients, surtout s'il y a des récidives, mais il n'y a pas toujours des récidives, c'est de l'ordre de 40-50%. Donc, on a des personnes qui vont avoir une repigmentation, qui vont la maintenir. Et plus on va avoir de traitements, plus on va pouvoir proposer de solutions à nos patients. Et aujourd'hui, on a une explosion. Pendant des années, on n'avait que quelques rares traitements et c'était toujours des essais que l'on essayait de mener justement dans les centres experts du vitiligo. On travaillait ensemble pour proposer des solutions à nos patients. Et aujourd'hui, on a de très nombreuses études en cours et à venir pour les patients qui souffrent de vitiligo. Et ça, c'est extrêmement encourageant et excitant parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On a fait des progrès. On aimerait des traitements qui fonctionnent plus rapidement, qui soient plus efficaces et qui permettent aussi, et c'est à mon sens le prochain gros challenge pour le vitiligo, c'est repigmenter ces zones extrêmement difficiles telles que les mains, les pieds, les poignets, qui restent encore aujourd'hui, quels que soient les traitements, extrêmement compliqués à repigmenter.
Justement, par rapport à ces enjeux, Raled Ezzedine, quels sont les autres pistes, les autres cibles thérapeutiques qui sont actuellement à l'étude?
Alors, il y a ces anti-IL-15 qui sont à l'étude, qui sont ceux de la mémoire, mais il y a d'autres pistes, probablement, au niveau des zones. Thierry disait tout à l'heure que c'est peut-être pas que le mélanocyte qui est en cause et que c'est pas cette histoire du poil, comme on l'a très longtemps dit, qui va pas finalement, qui n'est pas présent et qui permet pas de repigmenter, puisqu'il n'y a pas les bébés mélanocytes. Il y a des inhibiteurs de BET qui sont en train d'être testés, c'est des gros mots hein, scientifiques, mais je laisserai Thierry compléter. Il y a d'autres possibilités thérapeutiques qui sont à l'étude, parce qu'on a mieux compris, en fait, de manière plus ciblée, les voies thérapeutiques. On est descendu, en fait, dans la cascade jusqu'à maintenant, arriver à comprendre ce qui se passe de manière plus précise au niveau de ces zones-là.
Et puis, on a aussi peut-être qu'il y a d'autres cellules souches qui sont cachées dans la peau et qui pourront peut-être nous servir. Ça fait aussi partie des pistes à l'étude. Et pour compléter encore une fois ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage réalisé par Loïc Dutoit, Raled Ezzedine, vous évoquez dans ce reportage hein, les grandes questions éthiques à l'avenir. Et vous travaillez d'ailleurs en ce moment sur le projet de jumeaux numériques par rapport au vitiligo.
Absolument, oui. Ça, c'est une. Je pense que la France, on travaille avec l'équipe de l'Hôtel Dieu. On a des cohortes, en fait, de patients. On est en train de construire un registre avec Thierry et avec Julien Sénéchal, qui est à Bordeaux, pour pouvoir avoir des données sur les patients. Et à partir de ces données-là, on va avoir des jumeaux numériques, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de données présentes. Et à partir de ces jumeaux numériques, on pourra peut-être prévoir, avec des algorithmes et l'intelligence artificielle, les réactions au traitement et diminuer le nombre de patients qui reçoivent des placebos pour en avoir moins et simuler la réponse au placebo d'une autre manière. Et ces jumeaux numériques sont extrêmement importants pour l'avenir, pas seulement pour le vitiligo, mais en médecine en général.
Et en effet, pour tout comprendre des enjeux de ces jumeaux numériques, j'invite nos auditeurs à podcaster notre épisode Jumeaux numériques, le patient modèle. Alors dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, mais un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci Thierry Passeron et merci Raled Ezzedine. Tout de suite, on quitte la dermatologie et on s'oriente pour les neurosciences. C'est la chronique avec science.
Comment parvient-on à se repérer dans l'espace? Pas besoin de télescope ni de fusée, on reste bien sur Terre. On parle de la façon dont on peut se repérer et se déplacer dans notre environnement. C'est la navigation spatiale et vous l'avez déjà beaucoup utilisée aujourd'hui. Pour sortir de votre lit, pour emmener vos enfants à l'école, pour vous rendre sur votre lieu de travail, tout ça c'est votre chemin habituel, mais vous utilisez exactement la même navigation spatiale quand vous découvrez un endroit inconnu. C'est un geste quotidien et inconscient, mais c'est un processus complexe. La navigation spatiale mobilise les sens, notre mémoire et nos muscles, ce qui la rend assez difficile à étudier chez l'humain. Stéphane Ramanoël est chercheur au laboratoire LAMES et maître de conférences en neurosciences cognitives à l'Université Côte d'Azur.
Pour se repérer dans l'espace, on a en vérité besoin de, si on veut résumer, deux types d'informations ou deux types de cartes mentales qui nous permettent de nous orienter. La première, elle va dépendre de notre corps en mouvement, les informations que va nous fournir notre corps, la proprioception, le système vestibulaire, la copie déférence. C'est typiquement ce que vous allez utiliser pour aller boire un verre d'eau ou passer aux toilettes la nuit sans allumer la lumière et être capable de vous repérer. On a un deuxième type d'indice visuel qui nous permet de nous repérer, et eux qui vont être donnés par l'environnement extérieur. Ça va être tous les indices visuels de notre environnement. Par exemple, à Paris, si vous apercevez la Tour Eiffel, ça vous donne une bonne indication d'où vous êtes. Et on a, en gros, pas mal d'informations sur comment ces cartes se construisent, mais comment elles se combinent, c'est quelque chose qui est un petit peu plus limité, et notamment chez l'humain. En effet, chez l'humain, le peu d'informations dont on dispose, notamment sur les bases neurophysiologiques, elles sont issues de patients implantés, donc on n'est pas sur des sujets dits neurotypiques, et ou d'expérience en IRM fonctionnelle.
Et la limite de l'IRM fonctionnel, c'est que le mouvement est interdit. Dans une IRM, il ne faut pas bouger, sinon l'image est floue. L'objectif de cette nouvelle étude parue dans Journal of Neuroscience est donc triple. Réaliser une étude chez l'humain, sans avoir à implanter quelque chose dans le cerveau, donc sans être invasif, tout en conservant la mobilité du corps pour intégrer l'information du mouvement. Les scientifiques ont équipé 30 jeunes adultes d'un casque d'électroencéphalographie mobile pour enregistrer l'activité du cerveau en mouvement, et d'un casque de réalité virtuelle. Ils se retrouvent dans un immense pré, sans montagne, sans arbres et sans aucun repère visuel. Au début de l'expérience, un rocher apparaît. C'est un indice visuel pour aider à mémoriser la position de départ. C'est un peu l'équivalent de notre tour Eiffel de tout à l'heure. Et puis, l'objet disparaît et on va les perdre un petit peu. À partir de là, chaque volontaire doit marcher jusqu'à un point précis, puis se retourner et indiquer la direction d'où il vient. L'exercice est répété à 3 reprises. À chaque fois, on mesure la précision de sa réponse et à la fin, on montre à nouveau le rocher pour que le sujet puisse corriger sa position de départ. Résultat, le GPS interne du cerveau a besoin de repères visuels pour recalculer sa position et ce recalibrage se lit dans les oscillations θ.
Un petit peu ce moment eureka où les deux cartes mentales allaient s'aligner entre elles. Alors la première chose qu'on a vue déjà au niveau comportemental, c'est qu'on avait une accumulation de l'erreur d'estimation du point de départ au fur et à mesure de l'augmentation de la distance. On était déjà très content de pouvoir reproduire ce résultat assez classique de la littérature avant d'aller un petit peu plus loin dans nos données. Le deuxième élément important sur ces oscillations θ d'activité cérébrale, c'est des activités électriques du cerveau à basse fréquence, entre 4 et 8 Hz, qui ici étaient modifiées en fonction des performances des sujets. Et ça a été vraiment le résultat fort de notre étude, c'est qu'on allait avoir 2 signatures θ distinctes dans la tâche. Une première signature qui allait être associée au niveau de performance du sujet dans la correction quand l'indice visuel apparaissait, un petit peu l'indice d'intégration des deux cartes mentales. Et le deuxième élément intéressant et qui était assez inattendu chez nous avec cette approche non invasive, c'était une signature liée au mouvement de la tête pendant la tâche et exactement leur rotation, l'accélération de la rotation de la tête.
Ce que montre l'étude, ce n'est pas seulement que les oscillations θ changent, c'est qu'elles témoignent du moment précis où le cerveau recalcule sa position et qu'elles réagissent aussi au mouvement de la tête. Autrement dit, penser l'espace et bouger dans l'espace sont liés par les mêmes circuits. Naviguer, ce n'est pas juste avoir un GPS dans la tête, c'est l'ajuster en permanence avec ce que le corps voit et ressent. L'enjeu maintenant, c'est de faire la même étude chez des personnes âgées. On attribue souvent les difficultés d'orientation à la mémoire, mais peut-être qu'elles viennent aussi ou d'abord du fait qu'on bouge moins et moins bien et qu'on sollicite plus autant ce GPS interne.
Merci Alexandra. Les chroniques Avec Science sont à retrouver sur le site franceculture.fr. Et puis merci à vous pour votre écoute. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.